Bon, mais merci beaucoup Marie pour l'invitation et surtout pour l'idée de continuer l'idée des colloquiums open access. Bon, je suis désolé, je suis canadien, je vais faire un bilingue, je vais essayer de parler français, mais les mots c'est en anglais. Voilà, j'arrive en dernière position et donc je vais essayer de résumer un peu les enjeux, les termes, les idées qui ont été discutées lors de la conférence. Je fais un exposé général et après je vais terminer avec, quelques commentaires sur les idées qui m'ont frappé pendant les autres présentations. Voilà. Je commence avec Cost of Knowledge. Marie a déjà parlé pas mal sur ses effets, ses origines et ses effets. Je vais critiquer le modèle actuel. On a déjà entendu des critiques, mais je vais essayer de les mettre ensemble. Et je vais terminer avec des idées, des initiatives pour réformer, surmonter ces problèmes. Voilà, donc c'est il y a presque 2 ans. Que Gowers a dit, il a fait de la politique. Il faut dire, il a refusé de participer à un système, d'aider un système qui nuit à la science. Et tout de suite, ça a fait boule de neige, et surtout, ça a été repris par les journalistes qui trouvaient ça très intéressant. Et rapidement, il y avait des effets aux États-Unis, en Angleterre, en Europe. Je crois que ces enjeux existaient depuis au moins 10 ans, mais le fait que Gowers, qui est Fields Medal, est connu, qui est à Cambridge, et surtout la presse anglaise et américaine ont repris ces idées, en fait un effet, et surtout aux États-Unis, le Research Works Act a été tué, ce qui était une très bonne chose. Mais il faut dire, les matheux, bon, c'est aussi la journée des mathématiciens, ils ont une tradition, on est peut-être conservateur, mais on ne se laisse pas faire. Donc, depuis au moins 20 ans, il y a tout un groupe de mathématiciens qui ont lutté contre un système, un mauvais système. Donc, plusieurs journaux ont été fondés pour éviter la pression des grands éditeurs, notamment en topologie en 2007. C'est en fait toute la comité qui a démissionné et fondé un nouveau journal. Et l'ancien journal existait pendant peut-être 1 an et 2, après c'était fini. Donc c'est possible de tuer un journal mauvais et d'en créer un nouveau. Il y a aussi, pour l'histoire, un fait assez intéressant, Donald Knuth, qui est informaticien à Stanford. C'est lui qui, dans une certaine mesure, a permis l'édition mathématique scientifique moderne en créant un logiciel en libre accès, le LaTeX, et qui était choqué par la suite de voir comment des éditeurs ont profité de son système pour baisser les coûts de l'impression mathématique et augmenter leurs bénéfices. Et lui, il a écrit beaucoup sur les mauvaises pratiques des grands éditeurs. Voilà, donc ça a continué avec beaucoup d'articles pour le grand public. Mais je crois que le point le plus important, c'est en dernier, le gouvernement et les agences de financement s'est rendu compte que c'était très mauvais pour eux de financer un système de publication qui limitait les bénéfices de la recherche scientifique. Et nous, en tant que scientifiques ou chercheurs, on se vante toujours d'aider la société, de dire que ce qu'on fait, c'est intéressant, c'est beau, mais surtout, ça va aider l'économie, ça va aider le grand public. Mais si les résultats de cette recherche restent très, très limités d'accès, les bénéfices restent très, très, très simples aussi. Et mon anecdote, en Angleterre, le ministre de l'Éducation était un historien amateur. Il écrivait un livre et était très, très désolé de découvrir que quand il voulait trouver des articles dans la presse académique, il ne pouvait pas, ou sinon il fallait payer 50 000. Donc lui-même, je crois que ça jouait un rôle en Angleterre de dire oui, oui, il faut qu'on rende public les recherches qui ont été financées par le public. Voilà, donc ça, on passe, quand on passe rapidement, il y a beaucoup de raisons de ne pas aimer Elsevier, mais il faut dire que les trois ou quatre grands éditeurs commerciaux, ils ont plus ou moins les mêmes problèmes. Mais on n'a pas beaucoup parlé des pratiques, on parlait des problèmes économiques, des prix exorbitants, mais pas des pratiques, des mauvaises pratiques. The course of citation. Donc ça veut dire, ben, moi j'ai eu cette mauvaise expérience, et mes collègues ici en haut, dans beaucoup de journaux, ça c'est un journal d'Elsevier, ils demandent en dernière étape, tu as des épreuves et tu reçois toute une liste de choses assez ennuyantes à faire, il faut mettre des références dans le bon format et tout ça. Et j'ai vu qu'il y a aussi un petit paragraphe là, ils disent « You must cite and include in the references some papers ». Ils s'en foutent de quel papier on va citer, mais il faut citer quelques papiers du journal. Et moi, je n'accepte pas ça, et j'ai eu toute une discussion avec des gens d'Elsevier, ça montait assez haut. Ils prétendaient, oh non, c'est une pratique, on n'accepterait jamais ça, c'est toi qui invente ça, envoie-moi le papier. Je dis, bon, voilà, c'est ça, c'est vous qui... Oh non, non, c'est juste une petite assistante qui a fait ça. Bon, je ne crois pas. Mais c'est tout, ça montre aussi le mauvais côté de la bibliométrie. Maintenant, les éditeurs essaient de pomper les statistiques artificiellement. Bon, ça, c'est restriction de réutiliser et distribuer la connaissance. Ça revient aussi aux licences. Ça, c'est assez mauvais aussi. Les journaux, souvent, ils se vantent avec un temps de traitement d'un article très rapide. Et donc, ils vont dire, Royal Society faisait ça. Ils vont dire, bon, l'article, voilà les rapports des referees. Les rapports, très bien, il faut quelques petits changements, mais ce n'est pas majeur. Ah, votre article est rejeté. Mais pourquoi c'est rejeté? Oh, ne vous inquiète pas, c'est pas vraiment rejeté, il faut resoumettre et ça va être accepté. Pourquoi faire ça? C'est parce que comme ça, ils peuvent dire qu'ils réduisent le délai de publication. Parce que ça recommence comme un nouvel article. Et ça, c'est les Royal Society qui faisaient ça. Stealing content, ils volent le contenu. Par exemple, Springer a utilisé un robot pour extraire toutes les images des articles dans des articles Springer. Mais sauf qu'ils ont extrait des articles qui n'étaient pas la propriété de Springer. C'était des articles CC BY ou des articles où des auteurs ont réservé des droits. Mais ça a continué pendant assez longtemps qu'ils revendaient des articles qui ne leur appartenaient pas. Des journaux artificiels, des journaux qui ne sont pas des vrais journaux. Bidon, oui, exactement. Les gens critiquent à juste titre tous ces author pay, des maisons d'édition. Indaoui, c'est un peu limite, mais on a beaucoup de pratiques du même genre. Chez Elsevier, chez les autres. Chaos Solitons Fractals, ça c'était en fait un journal qui était complètement détourné par l'éditeur. Mais les deux autres, les Australian Bone Journal, ça c'était des faux journaux qui ont été créés par Merck pour vendre des médicaments, en gros, mais qui ressemblaient à des vrais journaux scientifiques. Et finalement, c'est l'idée. Amazon, ils ont des notes, des appréciations des lecteurs. Et Elsevier a dit aux gens, aux auteurs, bon, si vous écrivez un article, un commentaire favorable, on vous donne $20, un truc comme ça, en récompense. Donc tout ça, ça vient du fait que c'est du big business. Et c'est un big business qui qui essaie de pomper, c'est pas le contenu scientifique qui prime, c'est bibliométrie, c'est un travail avec des entreprises pharmaceutiques et tout ça. Tout ça, c'est Elsevier. Tout ça, toutes ces pratiques-là, c'est Elsevier. Bon, je prétends moi, sauf que ça, c'était Springer. Bon, il y a des gens qui ne soutiennent pas le boycott et ils ont plusieurs raisons. Donc là, je commence avec les justifications un peu bidons et les plus les vraies justifications. Ça, c'est pour la plupart des chercheurs, ils y réfléchissent même pas. Eux, ils veulent passer leur journée à faire la science et publier. Donc, c'est l'apathie, ils veulent pas en parler, on veut pas, ça vaut pas le temps. Ils disent que, bon, Elsevier, c'est peut-être mauvais, mais tous les autres sont mauvais. Ce raisonnement, j'ai entendu, je crois, ici en France, et SMF, ils disent, bon, Elsevier, ils ont sauvé beaucoup de journaux marginaux, et donc Elsevier, ils ont un rôle parce qu'ils sont riches, ils peuvent se payer le luxe des journaux qui sinon n'existeraient jamais. Ça, c'est un peu plus noble qu'un raisonnement. On dit, bon, j'ai mon collègue qui a soumis un article à un journal Elsevier, je veux l'aider, pourquoi je refuserais d'évaluer cet article? Et là, ça devient une question éthique, et on peut dire que, bon, je fais le moins de mal. Et sinon, dernier point, ça c'est les jeunes, que, et à plusieurs reprises, hier, aujourd'hui, les gens ont dit, c'est pas à nous d'imposer ces pratiques aux jeunes, c'est aux jeunes de faire leur carrière, mais parmi ces choix à qualité scientifique ou carrière égale, et des mieux et des moins bien. Bon, le problème principal, c'est un problème que les intérêts des publishers et des académiques, des chercheurs, ne sont pas alignés. Les publishers, ils veulent faire de l'argent. Et pour faire de leur modèle économique, c'est qu'il faut qu'ils prennent le contrôle du contenu pour ensuite le revendre. Les chercheurs et les agences qui financent leur recherche, ils veulent la connaissance qu'ils ont fait ou subventionné d'être le plus accessible possible. Et deuxièmement, les chercheurs veulent le crédit, ils veulent être cités et connus pour leur travail. Et donc, je crois, là, je résume un peu Tim Gowers. L'idée du boycott, c'est pas de changer Elsevier, mais de faire changer les scientifiques, les chercheurs. Et pourquoi une crise maintenant? Ça, on a déjà vu. On a, je crois, les publishers ont poussé la poule aux œufs d'or au maximum à produire. Et la poule en veut plus. Donc, les coûts sont vraiment impossibles à tenir. Mais ces deux points sont un peu moins visibles, mais très importants. On peut dire que dans le passé, il y a 30-40 ans, les chercheurs avaient vraiment besoin, dans le sens de vraiment absolu, besoin absolu des publishers. Pour diffuser les connaissances, il fallait imprimer. Ça, c'était un travail technique extrêmement difficile, surtout pour les maths. Il fallait distribuer. Et pour ça aussi, il fallait une expertise, un financement. Maintenant, je peux mettre mon article sur ma page web et c'est diffusé n'importe qui. C'est peut-être pas très visible, mais je n'ai pas besoin pour la typographie, mise en page, diffusion et publisher. Et même si je veux faire un vrai journal, on peut utiliser des systèmes comme PKP qui sont un plus ou moins clés en main pour toute la gestion des journaux. Bon, je vais sauter ça. Oui, d'accord. Donc, pourquoi c'est important? il y a le coût, mais je crois que le point le plus important, c'est ces deux points ici, en dernier. La science marche mieux quand c'est ouvert. Quand c'est pas ouvert, quand les découvertes sont pas visibles, d'abord au sein de la communauté scientifique, ça marche moins bien. Mais surtout, on fait de la science pas juste en huis clos, pour nous-mêmes, mais pour la société en général. Donc pour le grand public, pour les fonctionnaires, pour les journalistes, c'est très important de pouvoir y accéder directement à la littérature. Combien de fois? Bon, en maths, on voit pas beaucoup d'articles, malheureusement, dans les journaux, mais souvent, je lis des articles sur un événement scientifique dans un journal, et c'est très mal reporté, très mal décrit. Et c'est seulement si on peut revenir à l'article d'origine qu'on peut juger pour soi-même si c'est vrai ou faux. Et finalement, en science, même en maths, on dit souvent, en maths appliquées surtout, qu'il faut financer la recherche en maths appliquées, en physique, parce que il y a des découvertes qui peuvent aider l'économie ou la société en général. Mais chez moi, on a eu le cas des petites entreprises techniques qui voulaient accéder à quelques articles dans l'émission académique. Ils ne pouvaient pas payer le prix. Donc, ils sont associés à nous, en partie, comme une collaboration, mais en partie, pour eux, c'était important de pouvoir accéder à des articles. Et ça, on oublie que si on est dans une boîte de 10-15 personnes, on ne peut pas payer 10 000 $ à chaque pour un bouquet de journaux Elsevier. Et eux, ils ont vraiment besoin de cette information. Okay. Donc ça, c'est un peu un résumé en quelques mots. S'il y a un paywall, si ce n'est pas accessible gratuitement, ça limite énormément de l'impact de la recherche scientifique. Ça, c'est... j'ai repris ça de Ploss, et c'est juste un peu le mettre en contexte les différents types de open access. Donc, peut-être on va dire que c'est seulement la ligne ici qu'on devrait appeler le open access, le vrai. Mais si on regarde les publishers, par exemple Elsevier, quand ils disent Gold Open Access, c'est eux qui détiennent les droits. Donc, même si tu publies un Gold Open Access, c'est author-sponsored article, c'est quand même, tu signes tes droits à Elsevier. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment open access. Donc, il faut faire très attention, comme disait Marie, les mots, les terminologies très manipulées actuellement. Et c'est très difficile de voir qu'est-ce que ça veut dire open access. Donc, il faut. Si vous allez sur le site de PLOS, ils ont ce graphique qui explique un peu les différentes possibilités. Creative Commons. On a vu là, c'est un peu lent. Voilà. L'avenir. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc, ça, c'est la crise. Prochaine étape, qu'est-ce qu'on va créer de nouveau? D'abord, on a besoin des nouveaux modèles économiques pour financer l'évaluation, la distribution, diffusion et l'archivage de la connaissance scientifique. Que tout ça, ça coûte quelque chose. C'est pas gratuit, c'est certainement beaucoup moins cher que ce qu'on paie actuellement. Mais le problème, hier, je sais pas qui a, c'est Jacques qui a noté le fait qu'on est dans une situation instable et très difficile à gérer. Et ça, c'est très difficile, surtout pour les bibliothécaires, parce que eux, ils se trouvent obligés de payer des longs abonnements pour garder l'accès aux journaux actuels, tout en créant un autre système parallèle pour l'avenir. Donc, ça, première partie, c'est le modèle économique. Deuxième partie, c'est d'explorer les nouveaux formats de communication académique. Donc ça, on a entendu ça juste avant moi. On est très conservateur, pas juste les matheux, mais les scientifiques. Même si on est passé de papier en électronique, si on regarde la plupart des journaux, ça ressemble à... c'est un calque, c'est comme du papier, mais sur l'Internet. Et on devient de plus en plus décalé avec le reste de la société. Quand on regarde Facebook, les blogs et tout ça, ça foisonne dans tous les sens. Et nous, on reste avec quelque chose qui ressemble à du papier mis sur un écran. C'est un peu embarrassant pour un scientifique. Les scientifiques qui sont censés créatifs et prêts à faire là, on a des modèles de souscription, abonnement, souvent bouquet, mais on devrait séparer l'idée de open access, l'accès libre, au modèle économique. Donc, on tout à fait, c'est ce que dit juste petite Marie, qu'on peut avoir open access tout en restant gratuit pour le lecteur et l'auteur. Et en maths, je donne aussi quelques exemples. Il y a beaucoup de journaux Diamond qui sont gratuits à la fois pour le lecteur et l'auteur. Donc il faut juste repenser le modèle économique qui permet de financer ça. De l'autre côté, les publishers, ils essaient d'imposer le modèle Gold. Et Suzanne a dit, donné plusieurs raisons pourquoi Gold est très mauvais. Mais même en Gold, la gamme des prix est énorme. Ça varie de peut-être $100 à $3,000-$4,000. Pourquoi il y a une telle gamme de prix? On ne sait pas encore, les gens vont dire, ah, QG, ça ne va peut-être pas marcher à $100, mais si ça marche. Beaucoup de mes collègues mathématiciens, ils n'aiment pas par principe l'idée de payer. Je crois que c'est lié au fait que si je paye pour publier, ça veut dire mes recherches ne sont pas valorisées. Tu vois, c'est moi qui paye. Mais il y a une différence entre $100 et $3,000. Et si ça devient $1, les gens vont vraiment dire non, je refuse de payer $1, €1, c'est impensable. Donc, il y a un prix, peut-être un juste prix. Quelles sont les alternatives? Bon, il y a le parti archive, on peut séparer les fonctions d'un journal. Le parti archive qui est très important, et déjà il y a Archive, PubMed Central, et le parti évaluation par les pairs, qu'on devrait certainement réformer. On peut changer le prix, la facture. Mais ce dernier point est très important et je crois que personne n'a vraiment évoqué ça jusqu'à maintenant. Notre système académique, les chercheurs, pas juste en sciences, mais en sciences humaines, est très très imbriqué dans le système actuel de publication. Quand on embauche quelqu'un, quand on veut décider comment financer la recherche, on regarde actuellement beaucoup juste la liste des publications. On ne regarde pas souvent le contenu. Et dans Guédon a dit à l'Université de Montréal, c'était même formellement interdit de lire les articles. Ça semble bizarre, mais l'argumentaire, c'était, bon, nous, on n'est pas des experts au niveau de la faculté, donc s'il y a des experts et non-experts, on n'est pas pied d'égalité, donc on regarde juste les journaux et les titres et peut-être le nombre de citations bibliométriques. Et donc, c'est une très mauvaise situation. Donc, il faut peut-être revenir en arrière et dire, pourquoi on publie? Maintenant, je peux mettre un papier sur l'Internet. Et n'importe qui, quelqu'un en France, en Russie, en Argentine, peut lire mon article sans problème. Donc on n'a pas besoin de la publication pour diffuser nos idées. On n'a pas besoin de publication pour archiver l'archivage. On peut utiliser Archive, par exemple. On peut dire, oui, non, mais quand même, les journaux, ils font une sélection. C'est très important pour séparer bonne qualité, mauvaise qualité. Bon, combien d'articles sont publiés chaque année? 600 000, 1 million. Pensez vraiment qu'une sélection qui aide beaucoup, je dis, ah, mais seulement 1 million d'articles, pas 3 millions, donc ça m'aide beaucoup. Non. Bon, il y a un certain contrôle de qualité si on regarde les journaux, mais même ça, c'est un peu aléatoire. On connaît des exemples dans Nature, Science, des articles faux qui ont été publiés. Donc si on est honnête, et là c'est un peu méchant, mais moi je suis à l'intérieur du système et je l'ai vu pour moi-même, c'est vraiment des questions d'argent ou d'embauche à l'intérieur des universités. C'est là le rôle essentiel des articles maintenant. Ça veut dire que les articles jouent un rôle indispensable dans les décisions académiques. Et donc là, malheureusement, je n'ai pas de citation en français, mais ça, c'était lors d'une réunion que Marie organisait il y a 2 ans ici. Il y avait Jeffrey Bodnarsen qui a dit tout d'un coup, est-ce qu'on veut des comités éditoriaux de Nature et Science de décider des milliards de dollars de subventions à la recherche partout dans le monde? Parce que c'est actuellement ce qui se passe. Moins en maths, mais en médecine, c'est vraiment le cas. Si un chercheur, 3 articles Nature et 2 en science, il va l'embaucher. Et donc, ça veut dire que on a décidé de faire une espèce de subcontracting, d'externaliser l'expertise scientifique à une petite poignée de personnes pour qui la décision de publier, c'est pas du tout basé sur le même raisonnement. Et c'est seulement assez récemment qu'on a des journaux qui permettent de mettre des vidéos, le son, des bases de données, qui ont une interaction. Par exemple, moi je fais souvent des graphiques assez compliqués en 3D, j'aimerais bien publier un article où quelqu'un peut manipuler l'objet 3D en temps réel. Pourquoi on ne fait pas ça? Là, les archive overlays, c'est l'idée de séparer la partie archivage, organisation de la partie évaluation. On peut dire que la notion de journal va disparaître. Il y a seulement la notion d'un label de qualité ou de sujet. Donc le même article peut accumuler plusieurs labels. Déjà au niveau technique, deuxièmement au niveau plus général, et peut-être même comme des prix. Donc on télécharge un article et on peut savoir tout de suite si c'est bonne qualité, si l'article s'adresse à un petit public technique ou un grand public scientifique. Et Open Access est déjà là. Donc ce graphique montre depuis 2000 jusqu'en 2011 le nombre d'articles disponibles en Open Access. Donc, c'est 350 000, donc ça c'est peut-être un tiers des articles. Et on voit qu'il y a des 3 types. Il y a des diamonds, il y a des gold, il y a des journaux mixtes, où on continue avec une version intime. Bon, on peut penser à des changements encore plus radicaux. On peut faire un peer reviewing ouvert et en continu. Donc on peut imaginer un article qui est posté même avant d'être évalué. Et après, l'article évolue en réponse aux commentaires du public, des lecteurs. Et ça, c'est un raisonnement assez intéressant. Maintenant, ça ne coûte rien, plus ou moins, de publier un article, dans le sens de rendre public. Donc, pourquoi on va limiter? Pourquoi on dit qu'on va, comme si c'était une ressource limitée, dire que non, cet article, ça ne vaut pas, ça n'a suffisamment pas de mérite d'être publié? Ce qu'on veut, c'est une évaluation de qualité. Et on peut imaginer que les articles les plus intéressants accumulent des revues et deviennent de plus en plus intéressants et fructifiants même des années après publication. En maths, la longueur de vie d'une publication est infinie en principe. Donc on peut imaginer un article qui reste là pendant 10-20 ans, ça commence à accumuler des citations, des commentaires, et ça peut créer toute une nouvelle branche de recherche très tardivement. Et donc, je crois que l'idée que l'évaluation et la partie interactive d'un article passe avant la publication n'est pas idéale. Et le système actuel est très mauvais dans le sens où les pires articles, les articles nuls, pas intéressants, sont évalués beaucoup de fois. D'après un article, quelqu'un commence dans Nature, c'est rejeté. Il passe à Science, c'est rejeté. Et il suit la chaîne jusqu'en bas et c'est peut-être évalué 10-15 fois avant de trouver un abri quelque part dans un petit journal avec un niveau pas très bien. Et donc là, imagine les ressources qui ont été dépensées de relire, évaluer cet article peut-être 5 fois, à chaque fois de dire que c'est pas intéressant. Et on peut aussi repenser la façon de faire la science, on a Open Science. Là, ça ne marche pas dans tous les domaines, mais on peut imaginer un système où le processus de faire de la science reste ouvert et que beaucoup de gens peuvent y participer. En maths, c'est assez susceptible à ça, on n'a pas besoin de labo. Et Tao, Terence Tao et Tim Gowers, ils ont fait Polymath. Et ils lancent des questions, des problèmes, et les gens y participent, ils essaient de prouver un terme. Parfois ils arrivent, parfois pas, mais ça a l'air de marcher, c'est assez intéressant. Aussi, on a des carnets scientifiques. Donc, dans le passé, les scientifiques ont passé, ils avaient des carnets, mais ça restait privé, et peut-être quand ils étaient morts, ça passait en archives, et les gens regardaient les carnets. Mais on peut imaginer des carnets scientifiques ouverts où chaque jour j'écris dans mon carnet ce que je fais, mes questions, et d'autres personnes peuvent y commenter. Et ce genre d'interaction a joué un rôle majeur dans Arsenic Life. Donc, est-ce que quelqu'un connaît l'histoire de Arsenic Life? C'était il y a quelques années aux États-Unis, la NASA a annoncé qu'une chercheuse a découvert une nouvelle forme de vie qui était capable d'intégrer l'arsenic dans sa structure, dans l'ADN. Et ça fait une grande. Il y avait événement dans la presse, Science qui a publié, a dit ouais, ils ont fait conférence de presse aussi. Et une chercheuse de UBC, Université de Colombie-Britannique à Vancouver, a écrit sur son blog, d'abord, c'est impossible, j'y crois pas. Et après, elle a donné quelques raisonnements, elle a suggéré quelques expériences qui pouvaient prouver ou non, falsifier ces résultats. D'autres gens ont repris ces idées. En quelques semaines, ils ont complètement démoli l'article. C'est faux. C'est une erreur de base, de contamination, des tests. Donc ça, c'est open science. Mais le truc le plus vache, c'est que l'auteur de l'article original a dit « Je refuse de répondre à ces critiques jusqu'à ce que c'est publié dans un journal avec comité d'évaluation. » Donc, le peer review a été utilisé comme raisonnement d'essayer de faire oublier des critiques. Donc, dans les deux sens, c'est très intéressant. Bon, je vais terminer avec la politique en disant que on n'a pas l'habitude de lutter, on a l'habitude de lutter pour des idées en science, mais pas pour la politique, pas pour l'argent. Et il ne faut pas oublier que l'édition commerciale scientifique, c'est un grand business. C'est des milliards et des milliards de dollars, et quand il y a des milliards de dollars en jeu, les choses deviennent rapidement sérieuses. Et ça, c'est le cas d'Aaron Schwartz, qui voulait, il a téléchargé le contenu de JSTOR. JSTOR, c'est des archives, je crois que c'est surtout en maths, les archives des articles scannés. Et son idée, c'est le principe, la mission de JSTOR, c'est de foster widespread access to the world's body of scholarly knowledge. Donc, leur mission, c'est de diffuser les connaissances. Lui, on ne sait pas s'il voulait diffuser ça librement, mais il a téléchargé tous les articles. Et JSTOR et surtout MIT ont répondu très, très durement. Et ils ont appelé la justice américaine qui l'ont poursuivi pour vol et je sais pas, un crime très très grave, des millions de dollars, et il s'est suicidé en partie à cause de ça. Donc il ne faut pas oublier que les enjeux sont sérieux, et c'est de la politique. Donc je termine là, et je vais laisser mes conclusions là, mais je vais juste maintenant revenir au colloque. Donc, je crois que tout le monde est d'accord que le système actuel nuit à la science, nuit à tout le monde. Les chercheurs, le grand public, les agences qui financent la recherche. Et c'est Serge hier qui a commencé, je crois que c'est à juste titre, de dire il faut faire de la politique. C'est de la politique. On est dans un monde actuel et on veut un autre monde meilleur. Donc, c'est une question politique. Mais déjà, on devrait savoir ce qu'on veut. Donc ça, c'est très important. Il faut Sandrine a dit qu'il faut se solidariser. Quand on négocie, on est plus fort ensemble. Et ça, je crois que ça, c'est un très bon principe. Et aussi entre bibliothécaires et chercheurs. Donc à McMaster, j'étais exprès, je crois que 3 sur 5 étaient des bibliothécaires. Et c'est très important. Parce que les bibliothécaires, ils se sentent souvent très, très isolés. Les chercheurs, tout ce qu'ils veulent, ils demandent accès au maximum et ils ne veulent pas savoir le prix. Il faut respecter les cultures. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris lors de ce colloque. En sciences humaines, en sciences de vie, en maths, en ingénierie, en médecine, c'est des cultures différentes. Et ils ont l'idée ou le rôle de la publication est différent. Les questions d'argent, c'est différent. Il faut respecter ça. Il faut profiter tellement des possibilités des nouveaux modes de communication électronique. Là, je crois qu'on reste mauvais, d'une façon très mauvaise, trop ancré dans le papier, le modèle de papier. Il faut aussi penser à une licence idéale. Donc là, on a eu deux exposés très, très intéressants ce matin qui ont souligné le fait que c'est pas une bonne idée de juste mettre ces œuvres en libre diffusion. Il faut spécifier les droits. Il faut repenser le système d'évaluation des travaux académiques. Et ça, c'est très important. Et c'est là, je crois que c'est notre faute. On est paresseux, on a laissé les éditeurs commerciaux proposer des systèmes d'évaluation faciles à utiliser, mais pas très bien fondés, qui nous évitent de faire lire les articles, d'évaluer vraiment les chercheurs. Et ça devient de plus en plus sérieux, parce que les maisons d'édition, dans le passé, ils vendent le peer review. Maintenant, ils vendent même l'évaluation des chercheurs. C'est si les doyens, les présidents, bientôt, ils vont dire non, mais c'est facile, on va signer un contrat avec Thomson ou Elsevier, ils vont nous donner un chiffre qui évalue nos chercheurs. Et ils vont dire, bien sûr, ça c'est juste un indice parmi d'autres, mais on est paresseux. Donc ces indices vont devenir de plus en plus importants. Il y a aussi l'archivage. Les scientifiques ne pensent pas à l'avenir, mais nous, on profite des connaissances il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans. Est-ce qu'on est sûr qu'un journal électronique va être visible d'ici un siècle? Et finalement, les bibliothèques devraient jouer un rôle essentiel dans la publication des finances de la recherche. Bon, merci beaucoup.